Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Oh, j'entends au ton rocailleux de ta voix que tu n'as pas encore retrouvé l'intégralité de tes capacités vocales.
Je te confirme, effectivement. C'est même là en ce moment, je crois que je suis au creux de la vague, mais j'ai bon espoir que pour la prochaine émission, j'ai retrouvé toutes mes capacités vocales.
Bon, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Alors Renaud, la dernière fois qu'on s'était parlé dans le cadre de cette émission, tu nous parlais de l'inflation. Hein. Je rappelle à nos deux auditeurs que nous sommes sur une série consacrée au grand retour de l'inflation en Europe en cette année 2022. Et on avait fait un petit historique là, tu nous avais rappelé effectivement que les taux d'inflation avant l'arrivée de l'euro en particulier pouvaient être autrefois assez élevés, jusqu'à 10 ou 15%, et que depuis le début des années 2000, à peu près, donc depuis l'euro, les taux étaient au contraire extrêmement faibles. Alors donc, ma question est double.
Tout à fait.
Comment à la fois expliquer qu'on ait réussi à juguler ce taux d'inflation avec l'euro, et puis pourquoi est-ce que ce taux remonte-t-il aussi brusquement aujourd'hui? Bien sûr, on a l'impression que ça peut être la guerre en Ukraine, mais est-ce que c'est la seule cause?
Alors, pour répondre à ta question, ça tombe bien, puisque ça correspond exactement au sujet que je comptais aborder aujourd'hui. Quel talent, Eric. Donc, il faut revenir, en fait, aux causes de l'inflation, c'est-à-dire aux différents facteurs qui peuvent générer cette inflation. Nous allons voir, grâce à ça, que nous avions mis en place des politiques à partir de la fin des années 80, mais qui ont vraiment pleinement donné toutes leurs mesures à partir de la fin des années 90, c'est-à-dire au moment de la mise en place de l'euro, que grâce à certaines politiques qui explicitement cherchaient à juguler certaines des causes, eh bien, on est parvenu à lutter très efficacement contre l'inflation. Mmh. Et nous allons voir que depuis un an, en fait, tous les voyants sont au rouge, puisque les différents facteurs possibles de l'inflation sont tous en même temps, et c'est quand même historiquement une configuration assez rare, sont tous en même temps au vert, c'est-à-dire que tous les facteurs qui génèrent l'inflation sont présents actuellement. Et tu as raison de parler de la guerre en Ukraine, mais nous allons voir que ce n'est pas la seule cause de ce retour de l'inflation.
Très bien. Du coup, on t'écoute.
Donc, on peut classer, enfin, les économistes classent les causes possibles de l'inflation en trois grands types, en sachant qu'il n'est pas facile de donner une hiérarchie entre les trois, c'est-à-dire qu'en fonction des périodes, il est possible qu'une cause l'emporte sur l'autre. Disons que nous, en ce moment, on a les trois, c'est encore un peu difficile d'être capable de mesurer laquelle a le poids le plus important. Donc je vais te le faire dans un ordre qui est un peu conventionnel,
hein, ouais.
Mais qui n'a pas, enfin, en tout cas qui n'a pas vocation à dire que la première cause est plus importante que la deuxième et que la deuxième soit plus importante que la troisième.
D'accord.
Donc on va voir les trois grandes causes. La première, c'est celle qui peut spontanément apparaître comme la plus évidente, mais ce qui se cache à l'intérieur n'est pas autant qu'il puisse y paraître au premier abord. C'est l'inflation par les coûts de production. Ça peut sembler une lapalissade. Si les prix augmentent, c'est que les entreprises voient leurs coûts de production augmenter. Et si leurs coûts de production augmentent, ils sont bien obligés de répercuter, au moins en partie, cette hausse des coûts dans leur prix de vente, au risque sinon de vendre à perte et pourquoi pas de faire faillite.
Donc cette première cause, elle est finalement assez mécanique et elle correspond à une logique que tout le monde peut parfaitement comprendre.
Oui, alors elle est en partie mécanique, au sens où on pourrait imaginer que les coûts de production augmentent, mais que les entreprises ne répercutent pas cette hausse dans leurs prix. Par exemple, si elles sont en situation très concurrentielle et qu'elles ont des marges de profit importantes, on pourrait imaginer que si les coûts de production, par exemple, augmentent de 5%, l'entreprise, pour ne pas prendre le risque de perdre des parts de marché ou de perdre une partie de sa clientèle, n'augmente pas ses prix.
Parce que c'est
malgré tout,
compétitivité.
Voilà, exactement. Mais il n'empêche que malgré tout, on a du mal à imaginer que durablement les coûts de production puissent augmenter sans que l'entreprise, à un moment ou à un autre, ne répercute au moins en partie cette hausse dans ses prix. Donc oui, il y a un aspect un peu mécanique, en tout cas, il y a une causalité qui semble assez évidente. Alors, maintenant la question c'est pourquoi les coûts de production augmentent-ils ? Parce que c'est facile de dire ça, mais qu'est-ce qui peut faire que les coûts de production augmentent ? En fait, les économistes mettent en avant principalement trois grands types de causes à cette inflation par les coûts. La première, elle est assez simple à comprendre, et elle correspond à ce que l'on vit en ce moment, entre autres, c'est l'inflation importée. L'inflation importée, c'est quand des entreprises utilisent des matières premières qui ne sont pas produites sur le sol national et subissent, alors pour des raisons qu'on va comprendre par la suite, une augmentation du coût de ces produits, justement, de ces matières premières qui sont importées. Donc on comprend que mécaniquement, il va falloir répercuter ça dans le prix de vente. Alors évidemment, ça nous pose la question, pourquoi a-t-on une augmentation du prix des matières premières importées ? Alors là, il peut y avoir trois grandes explications. La première, c'est la raréfaction du produit. Par exemple, vous importez du cacao, vous importez du café, vous importez du pétrole, et on est juste sur une année où... je sais pas moi, les conditions atmosphériques ou les conditions sociales dans le pays en question qui ont amené à une grève longue ont fait que la production de cette matière première a été réduite en quantité. Et donc, on connaît tous le jeu de l'offre et la demande. Si à un moment, on a une quantité offerte qui est plus faible, mais que la demande reste identique, eh bien, on va avoir une augmentation du prix des matières premières en question.
J'imagine que ça peut aussi être pour des raisons politiques. Comme le cas de la guerre en Ukraine qui provoque une raréfaction des produits, non pas parce qu'ils ne sont pas produits dans les mêmes quantités, mais aussi parce que leur accession est plus difficile.
Exactement, Eric. Là, je donnais l'exemple d'un problème climatique, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple. On peut très bien avoir des raisons politiques. Dans les raisons politiques, on peut aussi avoir, par exemple, d'un seul coup, l'instauration d'une taxe sur les produits exportés. On peut imaginer qu'un pays décide finalement de souhaiter avoir une sanction contre un autre pays et décide volontairement d'exporter ses produits plus chers. Donc oui, on peut avoir tout un faisceau de causes qui expliquent ça. On a aussi toujours dans cette inflation importée une deuxième cause possible, alors là qui est un tout petit peu plus technique à expliquer, c'est l'évolution des taux de change. Et là aussi, on le connaît en ce moment. C'est aussi une des causes de notre inflation. Alors, le taux de change, Eric, je suppose que tu sais ce que c'est.
Oui, je crois que je le sais. Mais avec toi, on n'est jamais sûr de ce qu'on sait.
Non. Mais moi, je suis sûr. Vas-y, Eric, dis-le-nous. Le taux de change, c'est...
Le taux de change, c'est la parité qui existe entre les différentes monnaies à un instant T et qui est déterminée par les balances commerciales, non ?
Alors, qui est déterminée, entre autres, par les balances commerciales, tu as entièrement raison. Mais là, je reprends juste ton début. Oui, c'est là. En fait, c'est le prix d'une monnaie dans une autre. Quand tu parles de parité, hein, donc il n'y a pas forcément parité, mais c'est le prix d'une monnaie dans une autre. Donc si, par exemple, en échange de 1 euro, on obtient 1,2 $, eh bien, le taux de change, c'est 1 euro égale 1,2 $. Et actuellement, je ne sais pas si tu connais à peu près le taux de change euro-dollar.
Je t'avoue que non. Je ne suis pas allé aux États-Unis récemment. Non. Je peux te donner le taux de la livre, mais pas celui du dollar.
Ah, donc cela me laisserait penser que tu as passé des vacances en Angleterre cet été.
Ah oui, c'est pas très difficile, Renaud. Je l'ai dit lors de la dernière émission, si tu te souviens bien.
Oui, puis moi je le savais aussi par d'autres canaux. Mais bon, bref, je reprends le point de départ. Donc, il se trouve que quand le taux de change évolue, eh bien parfois, cela peut avoir un impact sur le prix. Je te donne un exemple très très concret. Imaginons par exemple que nous importions un baril de pétrole et que ce baril de pétrole soit importé 1 dollar, c'est-à-dire qu'on le paye 1 dollar. Imaginons que le taux de change euro-dollar soit 1 dollar égale 2 euros. Dans ces conditions, on va donc importer notre produit et on l'importe 1 dollar, mais il va être vendu en France 2 euros. On le paye deux fois plus cher du fait du taux de change. Imaginons que le taux de change évolue et que l'on passe à 1 euro égale 1 dollar. Eh bien, ça veut dire que le même baril de pétrole va dorénavant être vendu en France 1 euro. Dans mon exemple, on a donc une baisse du prix des produits importés, tout simplement parce que le taux de change a évolué. Dans mon exemple, en fait, le dollar s'est déprécié. parce qu'on est passé de 1 dollar égale 2 euros à 1 dollar égale 1 euro. Ce qui signifie, en fait, que le dollar a perdu de sa valeur, puisqu'en échange de la même quantité de dollars, on obtient moins d'euros. Donc si on veut se placer de notre côté à nous, ça signifie que l'euro s'est apprécié. Donc quand l'euro s'apprécie, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, on a une tendance à la diminution du prix des produits importés, qui tire donc vers le bas le niveau de l'inflation. Mais c'est pas ce que l'on a connu depuis un an. Depuis un an, c'est pour ça que je te demandais, Eric, le taux de change actuel entre l'euro et le dollar. En fait, il y a à l'inverse une dépréciation de l'euro par rapport au dollar. Il y a un an de cela, un euro était à peu près égal à 1,2 dollars. Aujourd'hui, un euro est égal à 1 dollar. Donc l'euro a perdu de sa valeur. Et la contrepartie, la conséquence de cela, c'est que donc les barils de pétrole, entre autres, que l'on importe, en tout cas tout ce que l'on importe en dollars, eh bien voit son prix augmenter lorsque l'on le traduit en euros. Donc là aussi, on a une inflation importée du fait de la dépréciation de la valeur de la monnaie.
D'accord, et sachant qu'il y a certains produits qu'on paye principalement en dollars, et je pense en particulier à l'énergie, ça a une forte influence sur notre pouvoir d'achat et l'inflation.
Exactement, et une des causes du renrichissement actuel de l'énergie, c'est pas la seule, hein, mais une des causes, c'est la dépréciation de la valeur de l'euro, justement par rapport au dollar que nous vivons en ce moment. Là, on est revenu au taux de change que l'on avait au moment de la création de l'euro, alors que les années 2000 et 2010 avaient été caractérisées par un euro plutôt fort. Et comme je viens de l'expliquer, un euro plutôt fort, ça tend à réduire l'inflation. Donc c'était aussi un des phénomènes explicatifs de la faible inflation que nous avions.
D'accord.
Dans mon truc. Et donc la troisième cause possible de l'inflation importée, eh bien ça peut être lié par exemple à des politiques protectionnistes mises en place par le pays. Alors ça, on ne l'a pas en ce moment. Mais par exemple, si la France décidait de taxer l'importation de produits américains, eh bien automatiquement cela renrichirait pour les entreprises françaises le prix des matières premières ou des d'une manière générale de du capital qu'elles achètent à l'étranger dans leur combinaison productive.
D'accord.
Mais ça, c'est pas le cas actuellement. Bon. Donc ça, c'était l'inflation importée. Deuxième type d'inflation par les coûts, c'est l'inflation fiscale. C'est-à-dire, il suffit que l'État décide de mettre en place des politiques d'augmentation des prélèvements sur les entreprises, soit via des cotisations sociales, soit via des impôts spécifiques aux entreprises, pour que les entreprises, éventuellement, répercutent ce coût supplémentaire sur leur prix de vente. Alors ça non plus, on ne l'a pas en ce moment, ça. Là, il n'y a pas d'augmentation des taxes. Je crois que ça se saurait, sinon. Hein.
Oui.
Déjà qu'on a du mal à mettre en place une contribution, puisque paraît-il, il ne faut pas parler de taxes. Donc, on a du mal à mettre en place une contribution sur ce que l'on appelle les super profits. Alors, je te laisse imaginer qu'une augmentation générale de la fiscalité sur les entreprises n'est absolument pas à l'ordre du jour.
Ni d'actualité.
Donc ça, c'était la deuxième cause de l'inflation par les coûts. Et la troisième cause de l'inflation par les coûts, elle est un tout petit peu plus complexe. C'est ce qu'on appelle l'inflation de productivité. Alors l'inflation de productivité, elle consiste à dire que dans les coûts des entreprises, il y a les salaires qu'elles versent. On pourrait spontanément penser que quand les salaires augmentent, cela augmente les coûts des entreprises. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela, parce que si jamais je suis plus efficace, parce que il y a une nouvelle organisation du travail, parce que on m'a donné un capital qui était avec du progrès technique et de l'innovation. Si mon efficacité dans le travail s'accroît de 10%, eh bien, quand bien même mon salaire augmente de 10%, le coût par unité produite n'a pas augmenté. Parce que je suis augmenté de 10%, mais comme je suis 10% plus efficace, en fait, je produis donc 10% de produits en plus. Eh bien, si on répercute cette hausse de salaire sur l'augmentation du nombre de produits, en fait, le coût par unité produite est resté identique. Donc, quand les salaires augmentent, c'est pas forcément source d'augmentation des coûts pour l'entreprise. Ça ne l'est que dans un cas, Eric. En fait, les coûts par unité produite des entreprises augmentent lorsque les salaires augmentent plus
que la productivité.
Que la productivité.
Voilà, justement, j'allais parler de la productivité parce que c'est bien la notion qui est derrière tout ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que ce qui fait augmenter les coûts, c'est la baisse de productivité de l'entreprise.
Alors oui, Si jamais la baisse de la productivité ne se traduit pas par une diminution équivalente des salaires, oui, toute diminution de la productivité va se traduire par une augmentation du coût par unité produite. Donc, quand on est dans un contexte général d'augmentation des salaires plus rapide que la productivité, eh bien là aussi, cela va se traduire par de l'inflation. Et là, on est dans un cercle vicieux en termes d'inflation, parce que quand les entreprises augmentent leurs prix, cela va d'autant plus inciter les salariés à réclamer de nouvelles hausses de salaire pour compenser cette hausse des prix, ce qui va d'autant plus accroître les coûts de l'entreprise, ce qui va les pousser à augmenter leurs prix. Et donc, on comprend aisément que cette inflation-là, elle peut exister. Alors, est-ce qu'elle existe aujourd'hui ? En partie, oui. On le sait qu'il y a des tensions dans certains secteurs d'activité sur le marché du travail, où on a du mal à recruter, où ça se traduit donc par des augmentations de salaire qui, parfois, sont supérieures aux hausses de productivité.
D'accord. Est-ce qu'on en a terminé avec l'ensemble des causes de l'inflation, Renaud ?
On en est très très loin, parce que nous avons vu une des trois causes de l'inflation, qui est l'inflation par les coûts.
D'accord,
voilà, alors nous avons subdivisé cette inflation par les coûts, mais il y en a encore deux autres.
Très bien, alors le temps nous manque pour poursuivre dans le cadre de cette émission, mais je propose finalement donc qu'on reparle de la deuxième cause et peut-être de la troisième lors de notre prochaine émission.
Oui, je t'assure, les deuxièmes et troisièmes tiendront en une seule émission parce qu'elles sont plus courtes que la première.
D'accord. Ouais. Et donc tout ça nous mènera au bout du compte à analyser pourquoi finalement, dans le contexte actuel, les prix ont augmenté, pourquoi nous connaissons à nouveau de l'inflation. Mais je pense qu'entre les deux, tu vas nous parler des mesures qui avaient été prises pour la diminuer au début des années 2000.
Aussi, tout à fait, c'est prévu.
Très bien.
Tout cela sera traité dans les émissions à venir. Voilà, bon. Eric, je te remercie pour tes interactions, comme toujours, toujours pertinentes.
Merci beaucoup, Renaud. Et puis, on a encore du pain sur la planche, hein, d'après ce que j'entends. Donc, je te dis à la semaine prochaine.
Je te dis à la semaine prochaine aussi, puis à la semaine prochaine à tous nos auditeurs qui suivent notre série d'émissions. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulsien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.